Par lire quelques versets que j'ai sélectionnés au sein du psaume 118. On ne va pas le lire en entier, mais il y a quelques versets que j'aimerais utiliser en préambule. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Qu'Israël le dise, car sa bienveillance dure à toujours. Que la maison d'Aaron le dise, car sa bienveillance dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa bienveillance dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a mis à l'aise. Que peuvent me faire des hommes et leur virus? L'Éternel est mon secours. J'arrêterai mes regards sur ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier aux nobles. L'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel agit avec puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je redirai les œuvres de l'Éternel. Amen. Puis, un texte dans l'épître aux Romains. Et je crois qu'il y a un PowerPoint qui va avec, hein? C'est bien ces moyens techniques modernes, je trouve génial. Il y a 40 ans, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, bien, on était au balbutiement de rien du tout, quoi. Alors, c'est dans Romains 8, les versets 28 à 32. Nous savons du reste que toute chose concourt, coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas ainsi tout avec lui? Par grâce. Voilà. Je sais pas si vous connaissez le parc Aventure qui se trouve à l'entrée du Valais. Il y a un grand labyrinthe, on le voit du reste quand on passe avec l'autoroute. Peut-être certains vous sont arrêtés pour y jeter un coup d'œil ou y jeter quelques enfants. Alors, il s'agit, en partant de différents endroits, de se retrouver en même temps, si possible, au rendez-vous central, hein, et puis de ressortir par la seule issue possible, pour autant qu'on la trouve rapidement, hein. Et il faut savoir être perspicace et choisir la bonne route. Alors, ceux qui font 2 mètres, ils ont un certain avantage sur les autres, parce qu'en se hissant, ils peuvent un petit peu discerner plus loin que les autres. Mais bon. Alors, c'est curieux parce que les sentiers se croisent, s'intercroisent, se recroisent, aboutissent à des impasses, on repart, on reprend, ça diverge. Et finalement, un jour, on aboutit et on en sort, si possible ensemble. Alors, avec le recul du temps, c'est rassurant de constater que dans le labyrinthe de notre vie, parce que je crois que la vie humaine, elle est à l'image des labyrinthes que on nous fait emprunter par jeu, bien, l'Éternel travaille dans le labyrinthe de nos vies sans jamais faillir à la convergence, c'est-à-dire la rencontre et l'apparente coïncidence, c'est-à-dire la rencontre au bon moment, de circonstances, je dirais, dont l'ordonnance nous échappe complètement, nous qui sommes des petits moucherons par rapport à la grandeur de celui qui ordonne toutes choses et contrôle toutes choses. Alors, j'aimerais attirer votre attention ce matin par quelques exemples bibliques et de l'histoire avec un H majuscule sur les miracles de convergence et de coïncidence des événements ordonnés par Dieu. Et le but que je poursuis là, c'est que notre confiance dans le Seigneur, qui prévoit et pourvoit, eh bien, qu'elle, cette confiance dans le Seigneur, augmente, qu'elle grandisse, qu'on soit plus paisible, même au sein des inévitables difficultés de la vie et des incompréhensibles orages qui peuvent être sur notre route et que nous avons à traverser. Je pense que personne parmi nous ne peut nier le fait que la vie nous est parfois réservée des surprises désagréables, n'est-ce pas? Mais Dieu travaille aussi au travers des circonstances négatives de nos vies. D'abord, j'aimerais, et là on peut changer, j'aimerais parler du roi David. David qui n'est pas encore tout à fait roi, mais qui est roi élu, comme certains présidents ne sont pas encore présidents, mais ils sont un président élu, voilà. J'en dis pas plus, mais j'en pense pas moins. David, qui est pourtant oint par l'Éternel, le bien-aimé de Dieu, le choisi, le futur grand roi remarquable, mais on ne va pas lui épargner beaucoup de périls. Saül, rejeté par Dieu, qui ne veut pas quitter son poste. Saül en veut à la vie de celui qui a été choisi à sa place. Et dans cette chasse à l'homme, Saül a dû croire un jour que David était cuit, qu'il était sur le point d'aboutir et que les plans de Dieu allaient être renversés. Et aidé par des traîtres, le roi Saül avait encerclé David et ses gens. Et l'affaire semblait dans le sac. Cependant, quelques jours auparavant, un messager était parti de la frontière nord du pays sans se douter qu'il se livrait à une course, je dirais, contre le sablier, bien que je sois dans une cité horlogère, la montre n'existait pas. Mais ce coursier courait contre le sablier et il ne se doutait pas, ce coursier, que le résultat de son message allait ruiner complètement les projets du roi Saül. La mission de cet homme, c'est de délivrer un message urgent au roi et de dire, et tu avais un plan dans tout cela, que à la frontière nord, les Philistins avaient attaqué Israël. On peut bien imaginer que ce messager royal a échappé à bien des dangers, qu'il a subi bien des retards, et il a perdu pas mal de temps à localiser le roi qui était tout le temps en mouvement. Et je pense que le génie du mal a dû s'acharner sur ce type-là pour le faire échouer dans les plans de Dieu. Il aurait pu arriver une heure plus tard que prévu, mais il est arrivé au bon moment. Parce que David semble perdu. L'homme destiné à la royauté que Dieu a choisi semble fait comme un rat dans une souricière. Et les plans de Dieu semblent relever donc plus de l'imagination que de la vraie prophétie. Mais ce messager va arriver, rempli de couvert de sueur et de poussière. Roi Saül, hâte-toi de venir, les Philistins ont pénétré dans le pays. Boum. Mais qui a donné l'idée à ces Philistins de se lancer dans cette aventure à ce moment-là? Je vous demande un peu. Leur instinct guerrier et leur haine viscérale d'Israël, sans doute, mais nous voyons que leur décision, même libre, ne va pas échapper au contrôle de Dieu. Voyez? Pourquoi n'ont-ils pas franchi la frontière plus tôt ou plus tard? Pourquoi les anciens d'Israël décident-ils d'en appeler au roi au lieu de faire ce qu'il faut eux-mêmes avec leurs troupes locales? Pourquoi, malgré le labyrinthe des pistes et de leurs dangers, le messager va-t-il arriver à temps vers Saül? Pourquoi? Bien, notre foi nous donne la réponse, on est d'accord. Parce que l'Éternel sait coordonner la convergence et la coïncidence des circonstances pour que ses plans s'accomplissent à l'égard de ceux qui le servent. C'est pour cela que les choses sont passées ainsi. Le texte nous dit ceci, c'est dans 1 Samuel 23. Alors Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. Qui lui fit prendre cette décision immédiate, même contre son gré? On a réponse. On peut changer d'image. Oh, il est beau, hein, là. Quand le roi tremble, Sennachérib, ou certaines versions disent Sennachérib, les deux sont, vous les trouvez souvent la version que vous compulsez, dans 2 Rois 18 et 19, deux chapitres qui racontent cette histoire. Ce roi assyrien a attaqué le royaume du Juda, et là on est environ en 700-701 avant l'an 0. Je ne dis pas avant Jésus-Christ parce que Jésus-Christ n'est pas né en l'an 0, hein, certainement entre l'an moins 7 et moins 4, on ne sait pas exactement, mais en tout cas avant la mort du roi Hérode qui lui en voulait, puisqu'Hérode, on sait, c'est historique, est mort en moins 4, donc Jésus n'est pas né en 0. Erreur de calcul de l'histoire. Ézéchias, le roi à Jérusalem, a déjà dû dépouiller le temple de tout l'or qu'il contient pour satisfaire l'Assyrien. Ézéchias est un vassal du roi d'Assyrie. Maintenant, ce roi est aux portes de Jérusalem et il s'apprête à liquider la question juive, comme l'histoire s'est répétée au cours des siècles, n'est-ce pas ? Il envoie ses ministres, dont son porte-parole, le Rabshaké, et Rabshaké n'est pas son prénom, c'est son titre. Hein? Le Rabshaké, il va narguer le peuple qui est massé sur la muraille, puis qui se mange les doigts, et qui se confie en l'Éternel, mais qui se mange les doigts quand même. Et Rabshaké le nargue ce peuple en hébreu, je vous en prie. Il se moque de ce roi Ézéchias qui se confie en l'Éternel et il appelle le Rabshaké, le peuple, à se révolter. D'accord ? Heureusement, le peuple va faire front, obéit au roi et garde le silence. Bon, parfois, quand on a la trouille, il vaut mieux se taire. Hein ? Ézéchias et son peuple crient à l'Éternel tout en affirmant leur confiance face à une situation qui semble vraiment désespérée. C'est une question d'heure, et la ville va tomber, elle va être prise, pillée, les habitants massacrés ou menés en esclavage. Ésaïe, le prophète, qu'on va vite consulter, hein, en général quand on est dans les problèmes, on prie, hein, mais là on s'adresse au prophète. Et il annonce, lui, quelque chose de complètement sidérant, que sur une mauvaise nouvelle, Sennachérib va s'en aller. Et même qu'il va tomber par l'épée, complètement, mais impensable à ce moment de l'histoire. Impensable délivrance, tellement les circonstances sont mauvaises. À ce moment-là, pas 3 jours plus tôt, ni 3 jours plus tard, ni même 1 jour plus tard, Tiraka, roi d'Éthiopie et d'Égypte, c'était un pharaon noir, se met en marche contre Sennachérib depuis l'Égypte. On va se rencontrer là bientôt sur les terres de Juda. Et la nouvelle parvient à Sennachérib. Distraction providentielle, je vous demande un peu. Ça va retarder l'assaut final. Oups. Et pendant la nuit, le texte dit que l'ange de l'Éternel descendit dans le camp des Assyriens et décima une grande partie de l'armée ennemie. Les commentateurs pensent que c'est une épidémie foudroyante de dysenterie qui va avoir raison des envahisseurs. Le texte dit « Alors Sennachérib s'en alla et retourna à Ninive. » 2 Rois 19, verset 36. Et pendant qu'il était prosterné devant son idole Nisroch, deux de ses filles vont l'assassiner alors qu'il adore son Dieu. C'est sympa l'esprit de famille, hein? Mais Judas était sauvé. Il aura fallu qu'une mauvaise nouvelle l'atteigne au moment le plus crucial, qu'une épidémie supposée éclate juste à ce moment-là pour que cet arrogant retourne chez lui, qu'un complot lui fasse rencontrer son destin funeste dans la maison du Dieu auquel il se confie, l'idole muette. Mais qui a mis en mouvement l'armée du pharaon noir ? Juste au moment propice. Qui a fait que le messager arrive à temps pour avertir Sennachérib, l'Assyrien ? Qui a orchestré une épidémie virulente inouïe au moment propice ? Qui a fomenté le complot des fils rebelles ? Est-ce que l'on douterait encore de la capacité de Dieu à prévoir et à pourvoir et à faire converger des coïncidences dont il a le secret ? On va changer. Maintenant, on va faire un grand bond dans l'histoire. On va aller à Genève au XVIe siècle. Donc, ça n'est pas une histoire biblique, hein, vous l'avez remarqué. Mais c'est l'histoire, tout simplement. L'histoire, elle est aussi remplie d'exemples dont Dieu a le secret. Hein. Si on veut bien, c'est une continuation des actes des apôtres dont on va parler juste maintenant. En ce temps-là, Genève avait chassé le clergé dominateur et complètement corrompu jusqu'à l'os. Hein. Il paraît que pour faire réclamer des messes payantes aux paroissiens, les prêtres, les curés, collaient des bougies sur le dos des écrevisses qu'ils lâchaient dans les cimetières pour faire croire que c'était les âmes des défunts qui demandaient la paix et qui demandaient des messes pour leur paix éternelle. Voilà. Et pire, hein, y a même Sainte Jeanne de Jussy, qui était une religieuse catholique, qui déplore la réforme, mais elle n'en reconnaît pas moins la très triste situation des prêtres dans l'Église. En parenthèse, ce n'est pas le Seigneur hein, qui a sonné là. Alors, elle dit ceci, Sainte Jeanne de Jussy, « Il est vrai qu'en ces jours tristes, les prêtres tiennent femme en lubricité, et gaudissoient les biens de l'Église, c'est-à-dire qu'ils les vilipendent, en vieux français. Donc ils avaient des maisons closes à Genève, les prêtres, et puis en même temps ils vivaient dans le grand luxe et dans l'abondance. Hein. Donc on avait chassé cette racaille, hein, mais la ville ne s'était pas précipitée dans les églises pour écouter les prêches de Guillaume Farel, le réformateur. Par contre, la ville glissait gentiment dans la lubricité. Hein. Donc, pas de vraie piété. Dénoncer l'erreur, c'est une chose, mais s'engager à vivre dans la vérité, c'en est une autre. Hein. On est d'accord. On avait donc été zélé à gicler les gêneurs, mais on n'était pas vraiment dans la réforme de cœur. On était libre à Genève, mais ça semblait juste suffire au plus grand nombre, plus avoir la tutelle de l'Église. Farel, malgré tous ses efforts, n'arrivait pas à redresser cette situation spirituelle et il réalisait qu'il avait besoin de quelqu'un avec une autre carrure spirituelle, une autre envergure que lui. Mais qui ? Mais qui ? Farel avait prié, supplié Dieu, mais rien ne venait. Toutefois, l'homme que Dieu avait choisi, destiné à Genève, était en marche, mais n'avait pas du tout l'intention d'arriver sur Genève. Il voulait se rendre de Paris à Strasbourg, où il voulait reprendre ses études, et je le cite, « loin des tumultes et des criailleries de Paris ». Ça va changer. Gilets jaunes. Mais Calvin trouve sa route barrée par une guérilla. Ça va le contrarier énormément et il va se voir contraint de faire un grand détour par le sud et par conséquent, il doit passer par Genève. Et là, il va décider de passer une nuit à Genève et il descend à l'auberge de la Tête Noire. Il paraît que ça existe encore, l'auberge de la Tête Noire. Farrell va le découvrir là par le plus pur des hasards, avec un D majuscule à la fin de hasard, d'accord ? Et en voyant Calvin, Farrell a l'intime conviction que c'est l'envoyé de Dieu pour affermir l'œuvre de la réforme commencée à Genève. Alors après de longues conversations, Farrell, lassé par toutes les objections incessantes de Calvin, n'a qu'une chose en tête, c'est filer le long du lac Léman, puis filer sur Strasbourg. Farrell, furieux, s'écrie d'une voix de tonnerre, « Je te le dis, au nom du Dieu vivant, si tu refuses de t'adonner ici, avec nous à l'auge du Seigneur, Dieu te maudira, car tu te cherches toi-même bien plus que Dieu. » Fallait oser, hein ? Dire ça au grand Calvin, fallait vraiment être inspiré, être sûr que c'était Dieu qui le lui disait. Hein. Et là, Calvin va capituler. Il avait fallu qu'une guerre barre sa route de la volonté personnelle de cet homme. Il avait fallu que le choix de son itinéraire passe par Genève. Il aurait peut-être pu passer par le col de Saint-Sergue et descendre sur Lausanne. Hein. Ça allait aussi, hein. Il avait fallu qu'il choisisse justement de descendre à la Tête Noire, où par hasard Farrell tombe sur lui. Il avait fallu qu'un Farrell ait osé l'interpeller et interpeller quelqu'un qu'il considérait comme largement supérieur à lui-même. Hein. Coïncidence et convergence d'un plan pourtant soigneusement orchestré par Dieu. Je vais vous raconter maintenant une histoire que je tiens de mon vieux pasteur qui est maintenant dans la gloire. C'était Adolphe Hunziker qui tenait cette histoire de première main. On peut changer. Ah ben voilà, ça c'est une huître. Hein. Attention, ne mettez pas les doigts dedans, hein. Ça se referme. Une mère, comme beaucoup de mamans, je suppose, priait ardemment pour la conversion de son fils. Elle persévérait jour et nuit. Elle s'appuyait sur les promesses de Dieu. Puis son fils, indifférent à la foi, avait choisi le dangereux métier de scaphandrier. Et il venait d'échapper à un accident qui aurait pu lui coûter la vie. Et il avait fait cette promesse à Dieu, « Si je m'en sors, je deviendrai chrétien. » Mais une fois le danger passé, n'était pas converti pour autant. Un jour, alors qu'il était en plongée, il remarque une huître qui retenait entre les valves de sa coquille un papillon, un papier rectangulaire. Intrigué, il s'approche, il prend délicatement cette feuille et aidé de sa lampe de plongée, il lut ces mots imprimés en caractères gras. Un dernier appel. C'était un papillon d'évangélisation, invitant le lecteur à ne pas attendre plus tard lorsque l'appel de Dieu retentissait. Imaginez. Profondément bouleversé par ce qu'il venait de trouver par hasard, ce jeune homme va s'agenouiller au fond de l'eau, par plusieurs mètres de fond. Il va implorer le pardon de Dieu et il va se tourner résolument vers lui. Dingue, hein ? D'où venait ce tract, ce papillon ? Qu'il avait conçu et imprimé ? Qu'il avait commandé et distribué ? Qu'il avait perdu ou moqueusement jeté ? Quel doux zéphyr l'avait emmené au flot ? Pourquoi ce crustacé insignifiant l'a saisi et l'a retenu ? Ce jour-là. Par quel hasard cet homme a-t-il plongé là, à cet endroit précis ? Remarque la chose, saisis ce détritus et finalement se met à lire ce qui est imprimé. Qui donc avait coordonné la coïncidence et la convergence de toutes ces situations? Rencontre providentielle de tellement d'éléments improbables, n'est-ce pas? Pour répondre à la prière persévérante d'une maman, en parenthèse, si vous priez pour quelqu'un, pour qu'il trouve le chemin de Jésus, persévérez. Persévérez, continuez, n'ayez pas peur de le faire. L'Éternel prévoit, il pourvoit, alléluia. Et là, un petit témoignage personnel, on peut changer d'image. C'est moi, ça. Jeune homme, j'ai souffert souvent de distorsion des genoux, et particulièrement du genou droit, et à force de déchirer ses ligaments, j'avais grandi en asperge, vous voyez ce que je veux dire, d'un coup, puis c'est un peu faiblard dans les articulations, et des fragments osseux s'étaient glissés sous la rotule, et il a fallu opérer. Nous habitions Genève, j'y étais très bien, j'y avais fait mon stage, j'avais un groupe de jeunes d'environ 90 jeunes, on avait fait une comédie musicale, Exit Égypte, on avait rempli les salles, c'était cool Raoul quoi, tout allait bien pour moi. Hein? Et j'étais à 100 lieues de penser qu'un jour je devrais partir sur Nyon, surtout que la petite communauté de l'époque était tombée à rien du tout. Et je n'avais pas de raison de convoiter, changer d'endroit. Ça roulait pour moi. Alors l'hôpital à Genève était surchargé et le chirurgien que je consulte me dit « Mais écoutez, il y a un excellent chirurgien à l'hôpital de Nyon. Essayez de voir si eux ont de la place. Contactez Prix et providentiellement, une annulation. » On me met à la place de l'annulation en question, et puis on m'opère, puis on me place à côté d'un monsieur âgé, et je découvre que c'est un ancien de l'autre église évangélique de Nyon, de la Frée, de la Fraternelle, ça s'appelait. Donc par hasard, on me place là à côté, puis on cause du piteux état de l'église en question, où il n'y a plus que quelques personnes qui se courent après. Pasteur en partance et tout. Et il me dit, mais est-ce que vous ne réalisez pas que c'est vous que Dieu appelle? Regardez, vous avez grandi dans cette région, vous connaissez tout le monde, vous avez de la famille dans toutes les paroisses et églises de la région, vous êtes l'homme que Dieu appelle. Non, pensez donc, non, nul n'est prophète dans son pays, etc. Vous voyez un peu les arguments. Mais le Seigneur a utilisé cet homme âgé pour m'interpeller et me convaincre que je devais considérer la chose. Alors je ne vous dis pas, au début, c'était rude. Il y avait trois dames âgées qui attendaient les tabernacles éternels. Il y avait 115 francs au CCP, au chèque poste. Oh là là, j'avais eu l'impression d'avoir mangé ma brioche et maintenant je mangeais du pain rassis noir, et voilà. Et je me souviens qu'on grimpait des escaliers au premier étage du bâtiment de l'Union, et on partageait la salle du culte avec les cours de yoga et les cours de régénération chinoise. Donc il fallait faire le ménage au propre comme au figuré, n'est-ce pas, avant de commencer. Mais toujours est-il que c'était ma place, Dieu m'y appelait. Et de fil en aiguille, bien maintenant c'est une grande communauté desservie par trois pasteurs après moi et qui possède plusieurs propriétés, qui n'a pas de dette et qui soutient la mission largement. Et je pense que Dieu souhaitait que je sois à côté de ce vieux pépé qui m'interpelle. Et il a fallu des circonstances et des coïncidences les unes après les autres pour que finalement la chose se passe. De ces différents récits, nous pouvons comprendre plusieurs choses. Tout d'abord, nous ne devons pas craindre les circonstances négatives, difficiles, douloureuses parfois. On doit les accueillir. Parce qu'elles sont toutes dans la main de Dieu. Dieu n'est jamais surpris par ce qui nous arrive. Celle-là, je n'avais pas vu venir. Hein? Dieu sait. Il a tout dans sa main. Le hasard n'existe pas. Ou alors, comme je l'ai dit, il faut l'écrire avec un D majuscule à la fin. Paul, qui parle aux Romains, leur dit, « Nous savons que toute chose concourt, coïncide ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. » On l'a lu tout à l'heure dans Romains 8. Deuxièmement, Dieu sait exactement ce que nous vivons et par où nous devons passer. Lui a la globalité de nos vies dans ses mains, ça c'est net. Nous, on ne connaît que le présent, on connaît le passé qui parfois nous afflige de par trop, ça c'est vrai. Mais on ne connaît pas l'avenir, lui il le connaît. Il est donc très opportun de vivre de confiance plutôt que de mourir d'angoisse. Confions-nous en Dieu, faisons confiance, quelles que soient les circonstances de nos vies. Et remettons nos vies dans ses mains au quotidien. On a la foi en bloc, mais les doutes dans le détail. Hein. C'est un peu le problème. Hein. C'est un petit peu comme les mon chéri qu'on offre à sa femme. Hein, on l'offre en bloc, mais on les reprend par le détail. On a la foi en bloc, mais on reprend ces élans de foi au travers de nos doutes personnels. Essayons de les livrer, ces doutes. Troisièmement, les circonstances négatives ont un sens. Toutes. Elles sont utiles dans la main de Dieu pour nous amener là où il veut que nous soyons et dans l'état dans lequel il veut que nous soyons. Parce que les circonstances négatives ont ceci de vrai. Si nous savons les gérer avec Dieu, elles nous changent. Elle nous transforme. Elle ne nous laisse pas intacts. C'est comme ça. La crainte des circonstances, la crainte du lendemain, de l'avenir, ce n'est pas une fatalité dont nous devons accepter les effets destructifs. Destructeurs peut-être aussi. Jésus parle des inquiétudes de tout genre qui accablent nos vies et il dit « Ne vous inquiétez donc pas, votre Père céleste sait. » Matthieu 6, 31-32. Alors entrons dans une démarche de confiance sereine, malgré les circonstances négatives ou les apparentes incohérences de notre chemin de vie. Dieu sait, Dieu connaît. Réfléchissons. Si nous réfléchissons honnêtement, nous allons peut-être voir a posteriori dans nos vies des choses terriblement compliquées, parfois graves et douloureuses, des choses aussi toutes simples qui ont été coordonnées par Dieu. Si on est honnête, on est obligé de reconnaître que Dieu a déjà fait ce genre de choses dans nos vies, de faire concourir toutes choses à notre bien. Une rue choisie par hasard, plutôt qu'une autre, une émission vue par hasard, une rencontre fortuite, etc. Même les rencontres fortuites sont destinée à être une rencontre que Dieu a orchestrée, si nous prêtons attention à cela. Alors, prions, demeurons dans une confiance paisible, dans un amour fidèle. Et on va constater qu'il y a cette parole de Proverbe 16, verset 9, qui est le reflet de la réalité. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. On va prier. Des fois, Seigneur, j'ai presque l'impression que tu es un petit peu farceur parce que tu te caches dans les circonstances qui jalonnent notre chemin de vie. Et c'est bon qu'il en soit ainsi. Permets-nous de discerner quand tu es dans nos circonstances, car tu l'es. Permets-nous de discerner ce que tu veux de nous dans ce qui nous arrive. Permets-nous de discerner ta main puissante, agissante dans tout ce qui se dénoue dans nos vies. Merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans cette pandémie. Nous ne sommes pas seuls dans ce temps difficile. Nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés financières même. Nous ne sommes pas seuls, tu es là. Seigneur, merci de renforcer notre confiance et notre foi en Dieu qui prévoit et qui pourvoit. Et je te demande, Seigneur, de mettre ta main sur un cœur troublé ce matin, sur un cœur qui est angoissé, sur un cœur qui ne sait pas que choisir. Seigneur, souffle ton vent de la paix, car tu es le prince de la paix. Alléluia. Amen. Et quand vous allez prendre la communion, renouvelez votre élan de foi et de confiance dans ce Dieu merveilleux qui a tout prévu et pourvu pour nous. Amen.